bonsoir, comment allez-vous? Et voilà, une semaine que nous sommes sortis de nos rails horaires, c'est dommage. Car c'était bien agréable, au moins dans un domaine, d'avoir des infos précises. Avez-vous l'heure? Oui, il est 9h10. Ça peut paraître bête, mais ça fait du bien une certitude dans cette époque Covid où on nous dit tout et son contraire. Il faut faire ci et ça, et puis non, ça ne sert à rien, et puis si, ça sert à quelque chose. Il ne faut plus faire comme on croyait, il faut faire comme on nous dit. Mais qui est celui qui dit? Un politicien, alors forcément un menteur, on nous cache des trucs. Un médecin, donc il sait. Mais les médecins sont zinzins, on le sait. Sauf quelques-uns, mais lesquels? Ceux qui parlent, parlent trop. Ceux qui se taisent sont des sages. Mais comment savoir ce qu'ils pensent puisqu'ils se taisent? Patati, patata, fais pas ci, fais donc ça. Donc, ces temps-ci, sur quel pied danser, on ne le sait pas. On sait qu'on ne peut pas danser après 21h ou 22, suivant les lieux, pendant 6 semaines ou 4 ou 5. Pour savoir si on est en bonne santé, on peut se faire tester 5 jours après une suspicion de contamination. Ou 3. Ou 7. Résultat en 24 ou 48 heures. Ou une semaine. Ou 10 minutes. Mais dans ce cas, c'est moins sûr. Et puis ces tests-là, on les a pas. Mais on les aura. Si on veut passer de chinois, on s'en passera. Vous avez raison, on se calme. Ne cherchons pas midi à 14h, puisque depuis 8 jours, il est à 11h.
Bonjour, je m'appelle Gaspard. J'ai 8 ans. Et je voudrais savoir comment on fait pour savoir quelle quantité de sable mettre dans un sablier pour mesurer l'heure. Au revoir.
Bonsoir Gaspard. Alors Wilfried Alain, vous êtes souffleur de verre, de père en fils, souffleur de verre à la flamme, et vous êtes venu avec des sabliers. Assez extraordinaire, je ne dois dire. Ça ressemble à de la magie, mais ça n'en est pas, j'imagine. Pour répondre à Gaspard.
Non, en effet, c'est pas de la magie, c'est un travail, c'est un vrai travail. Fabriquer un sablier, c'est pas quelque chose de simple. Et ça a l'air très simple, c'est deux réservoirs qui sont reliés par un petit étranglement qui va ralentir le sable et qui va nous permettre effectivement de mesurer un temps, pas l'heure. Ça nous donne pas l'heure, ça nous donne un temps. Un temps qui est réglé par le souffleur de verre lors de sa fabrication.
Parce que dans ces sabliers, Wilfried Alain, il n'y a pas de couture, il n'y a pas de fermeture, on voit rien, c'est pour ça que je dis magie.
Un vrai sablier est un sablier fermé hermétiquement et par du verre, pas par un point de colle comme on peut le voir des fois en trichant dans certains sabliers qui viennent de très loin et qu'on essaie de faire à la va-vite. Non, non, c'est un vrai sablier, c'est un sablier qui est fermé hermétiquement, intégralement. Et la fermeture est un défi technique, c'est le moment le plus technique pour fabriquer un sablier. Donc effectivement, pour donner un temps précis, admettons que vous me commandez une dizaine de sabliers de 5 minutes, je pourrais me dire que je regarde dans mon Wikipédia le diamètre exact et précis qu'il faudrait, avec une quantité exacte qu'il faudrait de sable, et que je vais donc le réaliser. Et en fait, non, parce que fabriquer, on va dire au centième de millimètre près, un diamètre intérieur, ça relève d'un défi technique qui est même pas envisageable. Ou alors ça serait vraiment un sablier qui serait hors de prix. Donc pour faire un sablier précis, ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer les deux enveloppes, l'une sur l'autre. Je vais faire un rétrécissement. Je connais à peu près le diamètre qu'il faut à l'œil nu. Donc je vais le fabriquer à l'œil nu, on va dire entre 4 et 5 mm. Et je vais laisser l'une des extrémités du sablier ouverte. Je vais laisser refroidir mon verre. On va le reprendre un petit peu plus tard. On va le remplir de sable. Au moment où je démarre le remplissage du sable, je démarre un chronomètre. Je le laisse remplir. Je vais mettre du sable tant que j'ai pas atteint mes 5 minutes. Vous m'avez commandé des sabliers de 5 minutes. Je vais faire un sablier de 5 minutes. Arrivé à 5 minutes, je couche mon sablier. Je retire le sable qui est en trop. Je le remets droit. Donc j'ai mes 5 minutes de sable écoulé dedans. Il ne me reste plus qu'à fermer le sablier. Et pour fermer le sablier, à ce moment-là, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que l'air ne supporte pas d'être enfermé dans du verre de manière hermétique. Il a envie de s'enfuir immédiatement. C'est tout simplement parce que l'air, quand il est chauffé, il gonfle. Donc, il empêche la fermeture du sablier. Donc, on va ruser. On va lui faire croire qu'il se passe rien du tout. Mais en fait, je vais l'avoir en douce. Et je vais fermer mon sablier. Vite fait, au dernier moment, il va rien voir le verre. Et l'air n'a pas le temps de pousser mon verre. Et hop, pile poil, c'est fermé, ça se voit pas.
Et pour le fermer, vous le remettez à ramollir à nouveau?
Voilà, alors ça c'est un verre qui a cette possibilité d'être chauffé, refroidi, il n'y a aucun problème. C'est un verre un petit peu technique, ce qu'on appelle le verre borosilicate, ou ce qu'on appelle aussi communément le Pyrex, qui est une marque, un peu comme Frigo. Mais ce verre-là, lui, a la propriété, vous le chauffez, vous le posez, vous le retravaillez dans une semaine, il n'y a pas de problème, le verre va accepter d'être travaillé comme ça. Alors on est très très peu à travailler le Pyrex dans le domaine de la décoration, mais c'est ça a des applications très très variées. Le Pyrex, on peut l'utiliser en chimie, quand le chimiste travaille sur ses petits becs benzène, il utilise très souvent du verre Pyrex, du verre borosilicate exactement. En cuisine, on s'en sert, et même dans la déco, on s'en sert pour faire des objets un peu techniques et originaux.
Vous trouverez le site de Wilfried Alain, artisan souffleur de verre à la flamme, sur le site des Petits Bateaux. Ce soir, vous avez demandé ce que c'était exactement que les zombies. Pourquoi les adolescents sont toujours sur leur portable et pourquoi les pandas mangent du bambou? À partir de quel âge peut-on poser une question aux Petits Bateaux? Eh bien, dès qu'on s'est parlé.
Bonjour, je m'appelle Victor, j'habite à Nantes. Pourquoi les étoiles ne se touchent jamais?
Merci.
Il y a un souffleur. Victor habite à Nantes, demande Yaël Nazé pourquoi les étoiles ne se touchent jamais. Yaël Nazé, vous êtes chercheur au FNRS. Vous êtes auteur, entre autres, de l'astronomie du passé édité chez Belin. Vous êtes astrophysicienne à l'université de Liège. A-t-il raison déjà, Victor?
Eh bien, en fait, on peut dire à Victor que si, si, il y a des étoiles qui se touchent. C'est possible! On en connaît même pas mal.
Ah bon?
Ah bah oui. En fait, il faut bien se rendre compte que les étoiles qu'on voit dans le ciel... Alors, je sais bien, quand on voit le soleil, il est tout seul. Il a l'air un petit peu tout abandonné comme ça.
Mais... Oui, il est carrément tout seul, pour nous.
Bah, il a ses petites planètes autour, mais bon, il n'y a pas d'autres étoiles avec lui. Mais les autres étoiles, c'est une autre affaire. En fait, la majorité des étoiles vivent en couple. Elles vivent à deux. Et quand elles sont avec deux étoiles l'une à côté de l'autre, bah, de temps en temps, il y a des couples qui sont quand même assez proches. Et donc, à certains moments, eh bien, elles peuvent véritablement se toucher. Et même, elles peuvent fusionner, ne faire plus qu'une seule étoile.
Ça, c'est sidérant. Mais quand elles se touchent, elles se cognent, elles se frôlent.
Alors, ça dépend à quel moment on est de l'évolution, mais typiquement, il faut imaginer les deux étoiles du couple qui se tournent toujours l'une autour de l'autre. Et donc, bah forcément, quand elles commencent à se toucher, bah, elles se touchent par un côté. Et puis, bah, vous avez cette espèce de cacahuète quoi qui tourne sur elle-même. Et puis après, bah, elles vont se rapprocher, et puis n'en faire plus qu'une. Ou de temps en temps, parfois, elles font comme ça une cacahuète, et puis il y en a une qui expulse un peu de matière, et puis elles se retrouvent de nouveau détachées, donc un peu séparées tranquillement, et puis elles vont réévoluer et de nouveau se retoucher. Donc, se toucher ne conduit pas nécessairement à la fusion de deux étoiles, mais ça peut arriver.
See them everywhere. In my veins like lightning, I don't even care. And the crowd is heavy, I don't wanna move. All these colors in me, but all I see is you. And nothing else matters.
C'était London Grammar, Baby It's You.
Les petits bateaux sur France Inter.
Le panda, voilà un animal que nous adorons et que finalement nous ne connaissons pas très très bien.
Bonjour, je m'appelle Alice, j'ai 4 ans, je voudrais savoir pourquoi les pandas mangent du bambou. Merci, au revoir.
Vous vous occupez justement d'animaux sauvages. Docteur Nourine Chaille, vous êtes vétérinaire de la ménagerie du zoo du Jardin des Plantes à Paris. Vous avez écrit Sagesse animale, édité chez Stock. Est-ce qu'elle a raison, la petite Alice?
Le bambou du panda. Pourquoi le panda mange du bambou? Cette question est extrêmement complexe, en fait, parce que le panda est un carnivore. Donc, Oui, carnivore dans le sens taxonomique, dans la classification animale.
Ouais.
Donc vous avez les mammifères, ensuite dans les mammifères vous avez les ongulés, les carnivores. Le carnivore est un groupe taxonomique qui regroupe d'autres espèces.
Ça veut dire que son corps est organisé pour manger de la viande.
Exactement, son corps est organisé comme un tigre, comme un chat, comme un ours. Donc le panda, le grand panda, présente un système digestif exactement de pur carnivore. En gros, c'est un carnivore qui s'ignore. Même sa flore digestive est équivalente presque à un tigre ou une panthère, plus qu'à une vache ou un cheval. Mais alors, pourquoi diable mange-t-il du bambou? Pourquoi passe-t-il 14 heures à manger des dizaines de kilos de bambou? Alors, il y a plusieurs hypothèses. On s'est pensé sur la génétique. Certains gènes permettent d'acquérir la saveur de la viande. Donc, on va pas dans les détails, mais si ces gènes sont mutés, on perd la sensation de désir de viande. Donc, on a vu effectivement que ce gène a été muté chez les grands pandas. Mais cette hypothèse n'est pas valable puisque ce gène a aussi été muté chez les vaches et le cheval. Donc, c'est pas très valable, la piste génétique. On a dit aussi que le panda était une impasse évolutive, dans le sens où, par accident, il a évolué pour être dans une impasse dans laquelle il se sent piégé. D'un point de vue évolutif, il ne peut plus évoluer. Mais ça, ce serait oublier que le panda a vécu plusieurs millions d'années comme ça. Donc, ce n'est pas une impasse évolutive. Donc, il faut aller encore plus loin. Plus loin, c'est au niveau physiologique, notamment. Le fait que le panda mange du bambou, ça lui impose un souci d'économie. Grâce à ça, il n'a pas besoin d'avoir un métabolisme élevé. Il a un métabolisme très très lent, il se déplace très peu. Même ses organes vitaux sont, je dirais, miniatures presque. Et si tu as déjà vu, Alice, un bébé panda, eh ben, tu verras qu'il pèse 100 grammes, le bébé panda.
C'est vraiment pas beaucoup.
900 fois moins que l'adulte. Il y a même une économie dans toutes ses fonctions biologiques. 100 grammes.
Mais un bébé d'humain, il pèse 3-4 kilos.
Le rapport chez l'humain, c'est 1/20. Lui, c'est 100 grammes, c'est 900 fois moins que l'adulte. Donc il y a toute une adaptation de l'économie énergétique que le panda présente. Déjà, c'est énorme. C'est-à-dire que du coup, il ne va pas être obligé de consommer d'énergie. Mais surtout, si on se pose la question, mais pourquoi il mange du bambou? On peut peut-être répondre d'une façon plus intelligente en disant, mais peut-être parce que justement il est intelligent, parce que finalement, en mangeant du bambou, il s'affranchit des efforts pour aller chercher une proie, il a toute une forêt autour de lui, toute une nourriture qui est inépuisable, donc il s'est adapté à un mode alimentaire qui lui permet d'assurer finalement une nourriture inépuisable. Pourquoi le panda mange du bambou? C'est peut-être pas une réponse au niveau de l'individu, mais une réponse au niveau de l'évolution. Et pour montrer que l'évolution peut avoir des traits de génie qui a fait qu'il a permis à un carnivore de s'assurer une quantité de nourriture inépuisable malgré des fonctions et des dispositions anatomiques qui ne sont pas adaptées.
Le docteur vétérinaire Nourine Chaille a écrit « Sagesse animale, comment les animaux peuvent nous rendre plus humains ». Aussi mystérieux que le panda et le bambou, les adolescents et leurs instruments.
Bonjour, je m'appelle Colline, j'ai 7 ans. J'aimerais savoir pourquoi les adolescents sont presque toujours sur leur portable. Merci.
Ah, tu avais remarqué, Colline. Bonsoir, merci pour ta question. Jean-Philippe Lachaud, vous êtes entre autres directeur de recherche à l'INSERM en neurosciences cognitives. Voilà une question que tout le monde se pose.
Oui, bonjour Colline. C'est une très bonne question, effectivement. On peut se la poser quand on voit les ados qui souvent ont cette... qui ressemblent un peu à un J inversé, vous voyez, ou dessiner un J à l'envers. Puis il y a la tête qui est toute penchée vers l'écran.
Ah, ils sont tous enroulés sur leur téléphone.
Exactement, ouais. Oui.
J'aime pas beaucoup, moi, voir ça. Je trouve ça fait enfermement.
Alors, il y a plusieurs raisons. Il y en a des mauvaises et puis des bonnes. Les mauvaises, entre guillemets, c'est que les contenus qu'ils regardent sur leur téléphone sont vraiment fabriqués pour stimuler maximalement ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, c'est un ensemble de neurones qui sont tapis au centre du cerveau et qui sont très sensibles à tout ce qui peut procurer une petite sensation d'excitation, de gratification immédiate. Donc ces neurones-là vont être très sensibles à ce qu'il y a sur les téléphones et donc vont sans arrêt encourager à faire attention à ce qu'il y a dessus, à rester le plus longtemps possible. En plus, ça bouge, il se passe plein de choses. Le système attentionnel adore ça. Et ce circuit de récompense va donc motiver pour passer le plus de temps possible. Après, il y a d'autres choses qui jouent à l'adolescence. Et il y a notamment le développement des compétences sociales, c'est-à-dire savoir comprendre les relations entre les gens, développer cette intelligence qui permet de deviner comment les gens vont réagir les uns avec les autres. Et donc, toute cette intelligence du groupe, il faut qu'elle soit très stimulée par des expériences sociales. Et les adolescents passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à s'envoyer des messages, à voir comment un tel réagit. Et en fait, ils structurent aussi cette vie sociale et cette compétence et cette partie de leur cerveau qui est dédiée à ce genre d'intelligence. Donc, il y a des aspects qui sont intéressants, d'autres où on a l'impression que l'ado se fait un peu prendre au piège.
C'est hyper intéressant de savoir ça. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il puisse s'ennuyer là où il est. C'est autre chose, en tout cas.
Plus on passe de temps, plus on est stimulé en fait par le contenu qui peut y avoir sur l'écran, plus on va avoir de mal à s'ennuyer. C'est-à-dire plus l'ennui va être vécu comme une véritable punition, quelque chose à éviter absolument.
Merci Jean-Philippe Lachaud. Les explications de Jean-Philippe Lachaud sont agréables parce qu'elles déculpabilisent peut-être les adolescents et apaisent les parents.
Les filles de l'aurore, je peux encore les retrouver. Elles ont autour du corps de l'amour et de l'or que l'on peut jouer au dé. Elles ont au fond des yeux, des rêves que l'on ignore. Quand vous dormez encore, quand l'on peut les voir passer par deux, et moi je viens. Quand le soleil monte à Saint-Jean, je voudrais leur dire
se lève maintenant une heure plus tard, l'aurore, elle est un peu sombre. C'était William Scheller, Les filles de l'aurore, sur France Inter, où vous écoutez Les petits bateaux.
Je m'appelle Lémile, j'ai 4 ans. Est-ce que les zombies, ça existe? Au revoir. Au revoir, madame.
Bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai 8 ans et demi, je voudrais savoir, est-ce que les zombies existent vraiment? Merci et au revoir.
Bonsoir à tous les deux. Vous en parlez, Philippe Charlier, des zombies dans Autopsie des morts célèbres, édité chez Talendier. Vous êtes médecin légiste, archéo-anthropologue. Alors, ces zombies existent-ils vraiment?
Eh bien oui, ça existe vraiment. Alors, c'est pas exactement les zombies que vous avez vus, Nelly et Raphaël, au cinéma ou à la télévision. Ce ne sont pas ces sortes de morts vivants qui transmettent une mort quasiment infectieuse, comme une épidémie. Bien que vous soyez un peu jeune quand même pour regarder ce genre de film, mais on ne sait jamais. Non, ce sont des zombies qui sont infligés, on va dire, par la société. Alors, je vous explique exactement comment ça se passe. On est en Haïti, c'est une île des Caraïbes, et la population principale de l'île, ce sont des descendants d'esclaves qui ont été transportés depuis l'Afrique, lors de l'installation, on va dire, des champs de canne à sucre et une colonisation européenne des Antilles. Et cette population originaire d'Afrique de l'Ouest est venue avec ses traditions, avec ses religions et ses rituels. Et est apparue une religion qu'on appelle le vaudou haïtien, qui est vraiment la transformation, un mélange entre le christianisme et cette religion des origines qui était présente en Afrique, au sud du Sahara. Les descendants actuels de ces esclaves qui se sont révoltés se sont organisés dans ce qu'on appelle des sociétés secrètes. Ça s'appelle cochon gris, cochon marron, chanterelle, bisango. Et en fait, ces descendants, ces sociétés secrètes, ont pour habitude, quand quelqu'un fait du mal à la société, de ne pas forcément déposer plainte devant un tribunal ou à la police, mais de se faire un peu justice eux-mêmes. Ils vont convoquer ces personnes-là, c'est des personnes méchantes, hein. Ce sont des violeurs, des voleurs, des assassins, des captateurs d'héritage, des gens qui vaut mieux pas que vous croisiez. Mais justement, pour les éliminer, si on peut dire, mais sans les tuer, eh bien ces sociétés secrètes vont les transformer en zombies. Ils vont leur mettre du poison dans leurs vêtements, dans leurs chaussures, et ils vont les transformer en véritables morts vivants. Ça va les endormir. Ils vont être en état de mort apparente. Ils vont être enterrés dans un cercueil, mais ils vont tout entendre. Ils vont être totalement conscients. Ils auront même les yeux grands ouverts. Et ils vont vivre leurs funérailles en étant complètement vivants. Mmh. Ce qui est hyper anxiogène. Ils vont vraiment avoir la peur de leur vie. Ensuite, quelques heures plus tard, ils vont être ressortis du tombeau. Faut pas attendre trop longtemps, parce que sinon ils sont privés d'oxygène et là ils vont mourir. On les ressort, on va changer leur nom, leur prénom, on va les flageller, hein, on va leur donner des coups avec des branchages, et puis on va les transporter à l'autre bout de l'île où ils vont avoir une autre identité. En gros, ça va être quasiment des esclaves des temps modernes qui vont travailler dans des usines, dans des champs de canne à sucre, comme garde malade ou garde d'enfants, auprès de ces sorciers qu'on appelle les bokors, qui ont fabriquer ces zombies. Donc, ils ne sont pas véritablement morts, mais ils ont vécu une mort symbolique et par là, ils ont été mis en mort sociale par une petite partie de la société. Donc, ça existe vraiment, mais ce n'est pas exactement ce à quoi vous pensiez.
Donc, les Haïtiens connaissaient ces molécules avant que nous on ne les découvre en Europe?
En fait, il semblerait que cette pratique était présente en Haïti avant l'arrivée des esclaves et avant l'arrivée des Européens. Et ce seraient les esclaves d'origine africaine qui auraient transformé, après leur libération, cet usage, notamment d'une molécule qui s'appelle la tétrodotoxine, qu'on extrait d'un poisson, qui s'appelle le poisson fugu au Japon, le foufou en Caraïbes, le tétrodon pour les zoologues. Mais vraisemblablement, ce sont les Caraïbes, les Taïnos qui utilisaient cette molécule et ce poisson.
Tétrodotoxine, pour le Scrabble. Vous trouverez les ouvrages du docteur Charlier sur le site des Petits Bateaux. Pour ce dimanche de la Toussaint, j'aimerais vous parler du tome 2 du roman de Ludy de Chine, passeuse d'âme en dilettante. Effectivement, l'héroïne a le don d'aider les âmes à quitter ce monde. Sans aucune attirance pour le morbide, elle est en aisance dans l'univers des morts et peut même apaiser ceux qui restent. Il lui arrive aussi parfois de parler à quelques fantômes. Parallèlement à ça, sa vie est exactement comme la nôtre. Ses enfants sont un enchantement, ce qui ne l'empêche pas un samedi après-midi de décembre, dans un centre commercial, d'avoir envie d'en trucider un ou deux. Hôtesse de l'air, elle est pourtant capable de se tromper de date pour un retour de vacances en avion. Elle travaille le jour de Noël, ne veut pas passer le réveillon dans la famille de son mari, du coup il fait la gueule, tombe malade le soir du 24 décembre, elle lui en veut, elle est odieuse, elle s'en veut de lui en vouloir. Elle arrive en retard au boulot, passe sa vie sur le périph, cherche une nounou. Bref, son roman qu'on devine d'un brin autobiographique n'est pas fait que de galères. Elle s'interroge sur la vie, apporte quelques jolies réponses, mais ne dit pas qu'elle a raison. Elle expérimente et raconte ce qui marche, ce qui foire. Avec humour et modestie, on aimerait la voir comme copine. Passeuse d'âme en dilettante, tome 2, à retrouver sur le site des Petits Bateaux. Par franceinter.fr, vous pouvez podcaster l'émission Les Petits Bateaux. Louis Audebert, Marjorie Devoucoux, Eliane Girard, Noël Bréham, Jean-Baptiste Audibert, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30.